France Inter.
Et nous sommes le lundi 22 avril. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Inter. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, l'Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement au monde.
Rapport du service européen Copernicus ce matin, les températures augmentent sur notre vieux continent deux fois plus vite que la moyenne mondiale. En Seine-Saint-Denis, rentrée scolaire perturbée par le mouvement des enseignants et des parents d'élèves qui demandent un plan d'urgence pour leur département. Jugé pour avoir commandité le meurtre de son kiné, un musicien comparé aujourd'hui aux Assises de Paris. Et puis elle fournit les médailles olympiques dans le monde entier. La monnaie de Paris expose l'histoire de ces médailles qui ont remplacé les couronnes de laurier.
Et les invités d'Inter ce matin, 7h50. Bonjour Sonia De Villers.
Bonjour à tous. Le gouverneur de la Banque de France adresse sa lettre rituelle au président de la République à l'heure où enfin l'inflation se réduit, où enfin les taux d'emprunt vont baisser. Victoire, on va voir. François Villeroy de Gallo à 7h50.
À tout à l'heure, 8h20, le grand entretien de la matinale avec le général François Lecointre, ancien chef d'état-major des armées. Il publie Entre guerres chez Gallimard. À 9h20, Léa Salamé recevra Mathilde Favier. Elle est la directrice des relations publiques chez Dior et elle publie Mathilde à Paris.
France Inter.
2 millions de personnes touchées par des inondations ou des tempêtes en Europe l'année dernière. Le vieux continent ballotté comme jamais par le changement climatique. C'est ce qui ressort du rapport annuel du service européen Copernicus publié ce matin. 2023 marqué aussi par des sécheresses en Espagne et au Portugal et par le plus grand incendie de forêt de l'histoire du continent. C'était en Grèce. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Spécialiste environnement à France Inter. Le rapport confirme aussi que l'Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement. Les températures y augmente deux fois plus vite que la moyenne mondiale. Alors comment ça s'explique ?
C'est d'abord à cause de la proximité de l'Europe avec l'Arctique, la région du monde qui se réchauffe 3 à 4 fois plus vite que la moyenne mondiale. Mais c'est aussi lié aux conditions atmosphériques du continent européen. L'été, elle favorise des anticyclones propices aux vagues de chaleur. Autre hypothèse avancée, elle peut paraître paradoxale, c'est parce qu'il y a moins de pollution de l'air en Europe. Or, la présence d'aérosols de polluants dans l'atmosphère a un effet refroidissant sur le climat, explique Julien Nicolas, climatologue au service Copernicus sur le changement climatique.
Cette pollution atmosphérique, en particulier liée à la présence de dioxyde de soufre, elle a pour effet, en général, de réfléchir le rayonnement solaire, ce qui conduit à un refroidissement de la température près du sol. Et avec une réduction de la pollution atmosphérique, en particulier liée à des réglementations plus strictes, ce refroidissement se réduit, ce qui conduit à un réchauffement, paradoxalement, du climat.
Et d'après les données de Copernicus, l'Europe s'est réchauffée de 2,3 degrés depuis l'ère pré-industrielle, contre 1,3 degré pour la moyenne mondiale.
Et tout cela avec des conséquences sanitaires. Sandy, on se souvient de ce pic de 48 degrés en Sicile ?
L'été dernier, le mercure s'est affolé dans une partie de l'Europe du Sud, mais aussi en Allemagne et en Irlande. Et les organismes sont mis à rude épreuve. L'année 2023 a connu un nombre record de jours de stress thermique extrême. Au cours des 20 dernières années, la mortalité liée à la chaleur a augmenté d'environ 30%. On peut réduire le nombre de victimes, insistent les auteurs du rapport Copernicus, en adaptant les systèmes de soins et de santé, mais aussi les bâtiments et les villes.
Merci Sandy. Le rapport juge toutefois que les mesures actuelles de lutte contre la canicule seront bientôt insuffisantes pour y faire face. Autre conclusion de ce rapport que vous retrouvez sur franceinter.fr, la fonte des glaciers dans les Alpes est spectaculaire. Ils ont perdu 10% de leur volume entre 2022 et 2023.
7h04, ils demandent, Anaïs, toujours des moyens pour leurs écoles.
Alors que les vacances sont terminées pour la zone C, région parisienne et Occitanie, certains élèves de Seine-Saint-Denis ne font pas leur rentrée ce matin. Les professeurs et les parents d'élèves poursuivent le mouvement entamé en février pour réclamer un plan d'urgence. 358 millions d'euros afin de permettre la création de 5000 postes d'enseignants et 3000 emplois de vie scolaire. Nouveau préavis de grève de l'intersyndicale pour ce lundi, car la rencontre avec la ministre la semaine dernière a laissé tout le monde sur sa faim. Julien Morcelli.
Comptabiliser les élèves qui ne parlent pas le français dans les classes, réfléchir à une équipe renforcée de personnel pour assurer les remplacements et augmenter les moyens humains en vie scolaire. Voilà les trois principales mesures envisagées par la ministre de l'Éducation. Trop vagues, largement insuffisantes, juge Marie-Hélène Plard du SNES FSU 93.
Quand au bout de 6 semaines, vous avez face à vous une ministre qui dit qu'elle a encore besoin de 3 semaines, 1 mois pour établir un constat, effectivement la déception elle est extrêmement importante et elle ne fait que relancer la mobilisation. On a reçu des des contacts de collègues qui ne s'étaient pas déclarés en grève et l'ont fait durant les vacances.
Les syndicats pourront de nouveau compter sur le soutien des parents d'élèves qui, disent-ils, ont le sentiment que leurs enfants sont scolarisés dans des écoles de seconde zone. Isabelle Lacroix, coprésidente de la FCPE 93.
Mon fils aîné, il est en 5e au Rincy. En début d'année, il n'y avait pas de professeur de mathématiques, de français et de latin. Nous, on sait qu'ailleurs, c'est difficile et on est aussi touché par les témoignages des autres parents d'élèves qu'on connaît dans les autres départements. Mais nous, ce qu'on voit au quotidien en Seine-Saint-Denis, c'est qu'on a un miroir grossissant de ce qui se passe ailleurs.
Professeurs et parents d'élèves s'appuient notamment sur un récent rapport parlementaire qui révèle que seuls 65% des absences sont remplacées dans les écoles de Seine-Saint-Denis, 12 points de moins qu'au niveau national.
Manifestation prévue tout à l'heure à 13h au Trocadéro à Paris. Certains craignent de revivre leur traumatisme. Le procès en appel de l'attentat de Nice débute aujourd'hui à Paris. 2 accusés sur 8 sont rejugés pour cet attentat qui avait fait 86 morts sur la promenade des Anglais. L'auteur principal avait été tué par la police le jour même. 2500 personnes se sont constituées partie civile. Lui est jugé pour avoir mis à prix la tête de son kiné, un musicien de 52 ans furieux d'une mauvaise manipulation du praticien qu'il accuse d'être responsable de son handicap, comparé aux assises de Paris pour avoir commandité son meurtre. Avec son épouse, il aurait recruté un gang de Géorgiens pour tuer son kiné dans un accident de la circulation. Il s'en était fallu de peu pour que ce dernier échappe à la mort, Jean-Philippe Degnaud.
Le kiné venait de garer son scooter dans cette rue paisible du 16e arrondissement de Paris. Heureusement, il avait encore son casque sur la tête quand un véhicule s'est d'abord arrêté pour le laisser passer avant de redémarrer subitement. Le praticien a fait un vol plané. Il s'en est sorti avec quelques contusions. Immédiatement, il a signalé à la police les menaces de son ancien patient. La vidéosurveillance et la téléphonie amèneront les enquêteurs sur 4 Géorgiens recrutés par un des leurs, le beau-père du fameux patient handicapé. Le placement sur écoute de toute la famille permettra de compléter le puzzle de ce règlement de compte et même de déjouer la préparation d'un second passage à l'acte, le premier ayant échoué. Pendant l'instruction, Sylvain a attribué à son ex-compagne l'initiative de ces opérations commando dont il n'aurait pas été tenu informé, mais Maria a indiqué avoir agi sous l'emprise de son conjoint qui ruminait l'idée de s'en prendre à son kiné depuis cet accident de manipulation 10 ans plus tôt. Et aujourd'hui encore, le praticien vit avec l'angoisse d'être un jour la victime d'un nouveau règlement de compte.
Le procès s'ouvre cet après-midi et va durer 3 semaines. Le niveau de vaccination progresse en France. Chiffre ce matin de Santé publique France. Couverture globalement élevée pour les vaccins obligatoires du nourrisson. Mais la rougeole reste toujours sous l'objectif des 95%. Les autorités mettent l'accent sur ce rattrapage vaccinal, surtout avec les millions de visiteurs étrangers qui vont venir à l'occasion des JO. Et puis ce soir, le projet de loi sur la fin de vie arrive à l'Assemblée nationale. Début des auditions pendant un mois de la commission spéciale, composée de 71 députés de tous bords politiques.
Il est 7h08 après 6 mois de guerre à Gaza. Israël continue de mettre la pression sur le Hamas.
Réunion hier des chefs militaires israéliens pour approuver les prochaines étapes de la guerre à Gaza. Gaza où des dizaines de corps ont été découverts hier, enterrés dans la cour d'un hôpital à Khan Younes. Selon la défense civile de Gaza, certains corps étaient dépouillés. Fouillés de leurs vêtements, l'armée israélienne s'est retirée de Khan Younes le 7 avril. En mer de Chine, autre terrain de tension géopolitique, c'est le coup d'envoi aujourd'hui d'exercices militaires aux Philippines, auxquels participent les États-Unis et la France. Pékin revendique 90% de cette zone, dont la petite île de Titou à 500 km des côtes philippines, à plus de 1000 de la Chine continentale. Mais Manille y a installé un petit campement de 200 civils qui vivent dans l'ombre pesante des navires chinois. Le reportage sur place de Nicolas Roca.
Une piste d'atterrissage en pleine mer. Voilà à quoi ressemble l'île de Titou depuis le hublot d'un avion de l'armée philippine. À Pagasa, comme l'appellent les locaux, tout est géré par les militaires.
Pour nous, c'est mieux de vivre avec les militaires. Cela nous fait nous sentir en sécurité.
Anna Reabania entame sa 15e année sur l'île.
Nous sommes encouragés à vivre ici parce que l'on reçoit du riz, de la nourriture, un logement et de l'eau gratuitement. C'est cela qui nous fait rester.
En plus des subventions, les habitants survivent grâce à la pêche, rendue plus difficile ces dernières années années par l'omniprésence des bateaux chinois.
Je me suis habitué aux Chinois et je n'ai plus vraiment peur d'eux. Comme la pêche est mon activité principale, je les vois tous les jours, mais on évite les zones où ils sont rassemblés pour limiter le risque d'accident.
Ronnie, l'un des plus vieux habitants de l'île, se dit investi d'une mission.
Nous sommes plus que des civils parce qu'ici nous avons un devoir à remplir envers notre pays. Nous sommes des gardiens du territoire. C'est notre devoir de faire savoir au monde entier que des Philippins vivent ici.
Une résistance civile qui semble bien limitée face aux moyens démesurés de Pékin. Nicolas Roca de retour de Titou, RFI pour France Inter.
La Chine par ailleurs qui envoie via son constructeur automobile Dongfeng des pièces de la Citroën C5 Aircross en Russie. Les voitures y sont assemblées en toute illégalité dans une usine délaissée par Stellantis. Explication dans une heure. Va-t-il inscrire son nom à côté de celui d'Eddy Merckx dans la légende du cyclisme? Tadej Pogacar, 25 ans, vainqueur hier en solitaire dans le Liège-Bastogne-Liège. Troisième sur le podium, son grand rival Mathieu Van Der Poel. Et entre ces deux coureurs hors normes, le Français Romain Bardet a décroché l'un des plus beaux résultats de sa carrière à 33 ans.
Je me pose beaucoup de questions sur est-ce que je continue, est-ce que j'arrête. Enfin, mon fils de 100 jours par an, je me dis est-ce que ça vaut le coup. Bon, j'ai jamais perdu la foi, j'ai toujours continué à travailler aussi. Et je savais que j'étais à un très bon niveau, mais voilà, ça va aussi très très vite devant. Vous avez vu les loucis avec qui j'ai affaire, donc voilà, des jours comme ça fait plaisir aussi et ça remet un peu de vent au cœur.
Romain Bardet avec Fanny Lechevestrier. 11 points d'avance désormais pour le Paris Saint-Germain sur Monaco après sa nette victoire 4-1 contre Lyon. Les Parisiens pourraient être sacrés champions de France de Ligue 1 de football dès mercredi à Lorient. Marseille, de son côté, a arraché le nul de partout hier soir sur la pelouse de Toulouse. Des champions qui passent la médaille à leur cou. Et en France, eh bien, sachez que nous sommes en pointe. La première médaille olympique a même été fabriquée en France. La monnaie de Paris est sollicitée dans le monde entier pour fabriquer ses breloques, ce qui en fait le plus gros producteur au monde de médailles olympiques. L'exposition d'or, d'argent et de bronze revient sur ce savoir-faire exceptionnel et vous l'avez visité, Fanny Imbert.
C'est ici, dans les forges, en plein cœur de Paris, qu'a été frappée la toute première médaille olympique de l'histoire pour les Jeux d'Athènes en 1896. Une pièce rare, rappelle Dominique Antérion, commissaire de l'exposition.
Dans l'Antiquité, on remettait une couronne d'olivier. À partir de 1896, quand les Jeux renaissent, les sports et les Jeux olympiques en particulier se dotent de ce nouvel objet de récompense. Et donc nous présentons dans l'exposition le tout premier exemplaire sorti de nos presses à l'époque, ainsi que les outillages originaux qui n'ont jamais été présentés au public.
L'exposition retrace l'évolution de la médaille olympique comme objet d'art. Ronde, carrée ou complètement loufoque, elles changent de forme au fil des années. Elles sont surtout des marqueurs de l'époque.
Aujourd'hui, les médailles doivent être très propres. Propres dans l'approvisionnement des métaux, par exemple, qui ont permis de les fabriquer, la traçabilité. Et c'est vrai que quand vous recevez cette médaille, vous la recevez parce que vous l'avez méritée, mais elle vous oblige encore davantage. Et vous devez être tout aussi exemplaire que la médaille l'est. Et c'est une grosse charge, finalement, que d'avoir cette médaille olympique.
5000 médailles sont frappées en ce moment à la monnaie de Paris pour être passé autour du cou des athlètes cet été. Sur l'avers, on voit la déesse de la victoire. Sur le revers est incrustée une pièce en fer issue de la Tour Eiffel pour que chaque vainqueur ramène un peu de Paris chez lui.
Voilà, et l'exposition d'or, d'argent et de bronze est visible jusqu'au 22 septembre à la monnaie de Paris.
Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, le zoom. Aujourd'hui, sur le droit de vote accordé aux femmes il y a tout juste 80 ans.